Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler d'Europe et nous allons parler d'un homme politique qui a eu un rôle important dans les relations internationales, dans les affaires étrangères, puisqu'il a été ministre à plusieurs reprises en France et qu'il a eu un rôle important dans la construction européenne. Il s'agit de Robert Schuman et nous allons voir notamment la façon dont il a contribué à l'élaboration de la communauté européenne. Pour évoquer Robert Schuman, je reçois Guilain Knepper. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'Institut Saint-Benoît, qui notamment travaille sur l'histoire de Robert Schuman et qui porte aussi la cause de béatification de Robert Schuman. Nous y reviendrons au cours de cette émission, notamment sur les rapports entre Robert Schuman et la foi catholique. Et vous êtes l'auteur d'une biographie de Robert Schuman qui s'intitule Robert Schuman, la politique pour vocation, qui est paru aux éditions Salvator, dans biographie dans laquelle vous présentez la vie de cet homme et ses rapports entre la politique, entre les grands moments de son temps. Commençons peut-être par l'origine de Robert Schuman, parce que vous dites que c'est un homme des frontières. Effectivement, il est né au Luxembourg. Il s'est retrouvé français par le retour de la Moselle à la France en 1919. Et il a toujours conservé cette filiation avec la région rhénane, le Luxembourg, l'Allemagne, la Moselle. C'est un homme de l'Est et c'est un homme aussi qui, ayant vu de nombreuses guerres dans sa région, a été peut-être plus que d'autres porté par l'idée et l'envie de bâtir un projet européen.
Effectivement, comme vous le disiez, Robert Schuman est à égards un homme des frontières. Rappelons que son père était né français et que suite à la défaite de la France à la guerre de 1870, les populations françaises avaient le choix ou de rester dans les régions donc Alsace-Lorraine, prendre la nationalité allemande ou bien d'opter pour la France. Et en fait, le choix de l'écrasante majorité de ces populations, qui étaient des populations agricoles, était de rester sur le territoire qui les a vues naître, surtout qu'on est sur une population qui est germanophone de langue maternelle, en tout cas dialectophone. Et ça a été le choix du père de Robert. Donc le père de Robert Schuman est né français, il est devenu allemand suite à la guerre de 1870, il s'installe au Luxembourg où il va rencontrer une jeune luxembourgeoise, bien plus jeune que lui, originaire avec en tout cas des racines alsaciennes et qui, elle, donc avait la nationalité luxembourgeoise. Tous les deux vont se marier et vont avoir un enfant unique, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, et donc il va utiliser son dernier prénom, comme ça se fait en Lorraine, comme prénom d'usage, Robert Schuman, qui est donc né allemand au Luxembourg d'un père français. Donc c'est une naissance, j'allais dire, déjà très européenne, ou en tout cas qui le prédestine à son avenir européen. Et il va ressentir dans sa vie familiale et dans son enfance, en fait, toutes les absurdités des conséquences de la guerre. Donc déjà le fait que lui doit vivre au Luxembourg, que son père ait dû changer de nationalité, lui va faire ses études en Allemagne, ce qui est relativement rare pour un jeune luxembourgeois, puisque la plupart des luxembourgeois vont aller faire leurs études à Paris, puisque le droit français était très proche du droit luxembourgeois, mais Schuman, lui, s'est toujours senti comme Lorrain. Je dirais même qu'en s'affirmant comme Lorrain, il montre déjà qu'il n'a pas une conception tout à fait classique de l'appartenance nationale, ou en tout cas de la citoyenneté, au moins, en disant qu'il est Lorrain, il s'attache à un pays, la Lorraine, et la Lorraine qui a été ballottée entre la France et l'Allemagne et qui redevient France en 1918, et toutes les populations d'Alsace et de Lorraine redeviennent françaises, et avec elles, Robert ne devient français qu'à l'âge de 30 trois ans, mais après avoir étudié en Allemagne, avoir parlé le luxembourgeois, sa langue maternelle, avoir appris le français et l'allemand à l'école et à la maison. Donc c'est véritablement un homme européen.
Alors, en 1919, il devient député de Moselle. Il reste député jusqu'en 1962, donc il a une très grande carrière parlementaire. Il a été député pendant près de 42 ans. Quelles sont les raisons qui l'ont conduit à se présenter, à se faire élire, et qu'est-ce qui l'a poussé à l'origine à débuter cette carrière politique?
Je commencerai à répondre en vous disant que Robert Schuman n'a jamais cherché à faire carrière en politique, pas même à entrer en politique. Il l'a fait, je dirais, à corps défendant par nécessité, puisque en 1919, il y a pratiquement 50 ans d'histoire qui ont séparé la France de l'Allemagne, et au moment où en France on voyait des lois comme la loi sur l'école laïque, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, l'Alsace et la Lorraine n'ont pas été touchées par ces lois-là, et dans des populations qui était encore profondément catholique, c'était vu d'un très mauvais œil. Donc Robert Schuman devient effectivement député, en tout cas il se fait inscrire, c'était l'époque des scrutins de liste, donc il n'était pas le seul nom, c'était pas un scrutin uninominal comme aujourd'hui pour les parlementaires, mais c'était un scrutin de liste, et Schuman se fait inscrire, poussé en fait par un chanoine, le chanoine Colin, qui était voilà comme à l'époque des chanoines, des religieux qui étaient aussi engagés en politique, qui lui dit « Monsieur Schuman, vous êtes le mieux disposé pour sauver l'âme de la Lorraine. » Donc, que veut dire sauver l'âme de la Lorraine? C'est surtout défendre toutes les particularités de l'Alsace et de la Lorraine face à un État français centralisateur qui voulait mettre en place manu militari toutes les lois anticléricales qui ont été posées pendant 50 ans. Or, à cette époque-là, les députés alsaciens lorrains avaient vécu pendant longtemps en Alsace-Lorraine annexée, étaient donc germanophones. Alors, évidemment, on a des populations qui sont revenues de la France qui n'étaient pas annexées, présentées aux élections, mais il fallait quelqu'un qui ait une conception très fine du droit, c'est le cas de qu'il a fait des études juridiques, et quelqu'un qui soit aussi en capacité de défendre les intérêts de l'Alsace et de la Lorraine au Parlement français. Donc Schuman est arrivé au Parlement français pour dans cet objectif-là, défendre les intérêts d'Alsace et de la Lorraine, donc défendre l'école confessionnelle, défendre le statut des cultes, défendre le concordat, et c'est ce qui a conduit en 1924, et c'est l'œuvre de Robert Schuman au droit local Alsace-Lorraine qui est le plus, on va dire, le plus celui qui préserve le mieux les statuts qui existaient auparavant dans ces régions.
Alors, effectivement, il y a cette volonté de défendre l'indépendance de la Lorraine et par rapport à cette centralisation française. Est-ce que il a joué aussi un rôle dans l'élaboration de lois au cours des années 1930 et puis les grands mouvements politiques? Enfin, la France dans les années 1930 vit des moments assez difficiles avec beaucoup de divisions et d'oppositions. Quel est, lui, son positionnement politique et comment est-ce qu'il participe à la vie politique française au cours de ces années assez difficiles des années 1930?
Je veux dire que à cette période-là, Robert Schuman a été un député particulièrement efficace sur le terrain. Il n'a pas porté de grands projets de loi. Enfin, son vrai grand projet de loi, c'était les lois d'intégration de 1924. Mais Schuman va en fait se positionner dans les années 1930 comme le rempart contre les mouvements du communisme qui commencent à monter en France, en fait. Et donc Robert Schuman, lui, voyant aussi engagé comme un homme politique chrétien, catholique, le risque que peut représenter l'avènement du communisme au pouvoir pour les intérêts des catholiques, Schuman va prendre régulièrement position contre le communisme et, je dirais même d'une manière générale, contre les mouvements nationalistes. Voilà, on lui connaît notamment des interventions, alors, particulièrement en Lorraine, plus que devant le Parlement français, où il explique que notamment l'intérêt de défendre la place de la religion dans la société française comme étant un rempart contre les idéologies nationalistes. Il dit que, en fait, un État qui respecte le fait religieux comme étant aussi, n'étant pas seulement une problématique de vie privée, mais aussi un fait social, et qui a sa place à part entière, que, en réalité, l'État qui préserve la religion dans la société est un État qui se préserve des idéologies. Donc je dirais que le rôle de Robert Schuman dans l'avant-guerre va être celui de la défense, en fait, de la religion dans la société. Donc voilà, je le disais, pas de grands projets de loi portés. On sait que Schuman a un intérêt très particulier pour les questions scolaires. On le voit aussi dans ses engagements locaux en tant que conseiller général de la Moselle, la question scolaire a toujours été très importante pour lui, mais c'est véritablement au moment où les tensions vont s'accroître vers la fin des années 30 que la carrière politique, on peut parler de carrière politique puisque Schumann n'était pas un carriériste, va vraiment prendre un tournant au moment nommé sous-secrétaire d'État aux réfugiés.
Sa réflexion, son projet européen, est-ce qu'il est né de la Deuxième Guerre mondiale ou est-ce qu'il avait déjà commencé à germer un petit peu avant celui-ci? Est-ce qu'il a mené, avant le Second Conflit mondial, des projets ou des ententes ou des associations pour faire un embryon de projet européen?
Alors, au risque de vous surprendre, j'aurais même tendance à vous dire que Robert Schuman n'était pas d'abord un Européen. En fait, le projet européen pour lui était un moyen et non une fin en soi. On se rend compte dans la vie de Robert Schuman qu'il y a un désir très profond de servir la paix. On le voit pendant la Première Guerre mondiale, ou au moment où Robert Schuman est à Metz et qu'il voit arriver tous les convois avec les soldats blessés au front, qu'il connaît des morts dans son entourage à la guerre, toutes ces tensions, cette absurdité de la guerre. En tout cas, chez Schuman, il y a un désir très profond de servir la paix, et il va falloir trouver un moyen pour la servir, et ce moyen, il ne va pas apparaître dans les années 1946-47, au moment où il arrive au gouvernement français. Donc, rappelons-nous bien que Schuman avait pour but de paix et que l'Union européenne n'est qu'un moyen, en tout cas la communauté européenne n'est qu'un moyen. Pendant la guerre mondiale, dans ses écrits, on l'entend, enfin en tout cas on le lit, il dit que aussi longtemps que la guerre durera, aussi longtemps mettrons-nous construire la paix. Donc il y a vraiment ce désir de construire la paix, mais qui trouvera son aboutissement qu'à la fin des années 40.
Alors il vit une partie de la guerre où il est emprisonné, il parvient à s'évader, il rejoint la zone libre, et puis par la suite il revient en politique à la fin de celle-ci, et il devient une des grandes figures de la 4e République. C'est un petit peu son apogée, c'est là qu'il était ministre des Affaires étrangères, il a été chef du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que ces années 1950, c'est le sommet de la carrière politique de Robert Schuman, enfin du moins en politique intérieure?
Alors moi je dirais même que c'est le sommet de la vie politique de Robert Schuman, puisqu'il a 60 ans, c'est un homme en pleine maturité humaine et je dirais même chrétienne, qui arrive au pouvoir en 1946 en tant que ministre des Finances. Donc imaginez quand même quel est l'enjeu du ministre des Finances au moment où la France sort exsangue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va mener une politique de rigueur pour redresser économiquement le pays. Et pour moi, d'autres historiens ne me rejoindront pas, et peut-être la doxa ne me rejoindra pas non plus là-dessus, mais je ne dirais pas que la déclaration du 9 mai 1950, donc la déclaration qui fonde la communauté européenne, soit le sommet de la vie politique de Robert Schuman. Je dirais au contraire que le sommet de la vie politique de Robert Schuman, ça a été le moment où, en décembre 1947, alors président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement français, c'est l'équivalent du Premier ministre sous la Ve République, Schuman va être aux communistes qui voulaient en fait prendre le pouvoir et sauvegarder l'unité nationale. Et dans son entourage politique, Schuman fait la consternation, puisqu'il est toujours paru comme étant un homme très timoré, peut-être même trop doux. Et là, il va faire preuve d'une fermeté incroyable pour réaffirmer l'autorité du gouvernement français et l'unité de la nation française. Donc je dirais que pour moi, le sommet de la vie politique de Robert Schuman, si vous voulez, on pourra dire le sommet de la vie politique intérieure et l'aspect homme international. En tout cas, pour moi, en tant que représentant de l'État français, c'était décembre 1947. Effectivement, il devient ministre des Affaires étrangères, on va en reparler, le moment où il fonde la communauté européenne du l'acier, et il finira ses mandats ministériels en tant que garde des Sceaux en 1950.
Vous soulignez sa force. C'est vrai que physiquement, il a un physique extrêmement ascétique, très, très fin, et il donne l'impression de quelqu'un d'assez frêle, d'assez fragile, et pourtant, vous le soulignez, il a une très grande force politique, une force intérieure aussi, et il n'a jamais véritablement dévié ni de ses objectifs, ni de ses projets politiques. Il parvient à résister aux attaques et aux difficultés qu'a pu connaître la 4e République avec finalement une très grande fermeté, une très grande vigueur.
Oui, effectivement. Alors, Comment vous l'expliquez? Vous parliez effectivement de force intérieure. Alors Schumann était de consistance physique assez chétive, hein, il avait pas mal de soucis de santé, même dans sa jeunesse, hein, ce qui faisait qu'il devait aller régulièrement dans les montagnes, dans les Vosges pour prendre le grand air. Mais sa vraie force était une force intérieure. Bon, je dirais déjà que c'était une force qui était une force de la foi, en fait, cette conviction de servir le bien commun, en fait, un intérêt qui était supérieur à la somme des intérêts individuels. Donc, quand Schumann était persuadé qu'une chose était bonne, il était capable de toutes les audaces pour aller au bout, donc pour servir le bien commun. Et aussi appuyé sur une espérance chrétienne qui fait que l'homme politique chrétien qui est en responsabilité doit aussi être à les événements et choisir le bon moment. Donc, c'est pas, il n'y allait pas non plus bille en tête. En tout cas, il y avait une force qui le faisait avancer droit, même dans la tempête, même face vif opposant politique, mais sans être non plus entêté. C'est-à-dire qu'il choisissait les bons moments, était aussi capable de discussion, je dirais pas forcément de compromis parce que ça peut être mal vu, mais en tout cas capable, il avait des grandes capacités d'écoute, puisque naturellement la politique, ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est l'idée de plusieurs hommes qui s'accordent sur un choix. Et donc Schumann savait aussi lui convaincre et choisir le moment pour mettre en œuvre ses projets. Je dirais que c'est ça qui faisait sa force.
Quelle est sa conception de la communauté européenne? Vous avez souligné que dans les années 1920, il s'était opposé, on pourrait dire, au jacobinisme parisien qui voulait uniformiser la vie politique de la Lorraine, la vie culturelle de la Lorraine. Ce débat qu'il y a en Europe entre une Europe des nations, une assemblée de nations ou une Europe supranationale, comment est-ce que Schuman s'est positionné, s'il s'est positionné, et quelle était sa vision de la communauté européenne?
Je dirais que la vision de la communauté européenne de Robert Schuman était celle de ce qu'on appelle et qu'on lui reconnaît la politique des petits pas. Cette politique des petits pas, elle résume à elle seule sa manière d'œuvrer en politique et aussi sa vision du projet européen. C'est-à-dire qu'il fallait faire des avancées décisives sur des sujets extrêmement contraints. Quand on prend l'exemple de la première communauté européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était la mise en commun de la production de charbon et d'acier à la base de la France et de l'Allemagne, mais qui a été étendue aux six pays, donc l'Italie et le Benelux, mais en fait, créer une communauté économique, sachant que l'économie n'était pas la fin, mais le but, c'était un politique, donc poser un pas d'intégration économique conduirait vers une intégration plus politique. Donc c'était ça, véritablement, la politique de Robert Schuman. Une Europe, je dirais, pour résumer et caricaturer, une Europe forte, mais sur des sujets extrêmement limités. Ça, c'est pour, je dirais, politique. Sur la vision idéologique que Robert Schuman avait de l'Europe, c'était évident d'une Europe chrétienne, une Europe qui se fonde sur qui sont des racines historiques, racines culturelles. C'est l'Europe des cathédrales, voilà, c'est l'Europe chrétienne qui doit cimenter le projet européen. Schuman disait, si l'on fait l'Europe en ne faisant que des institutions, on créerait un corps sans âme. C'est un non-sens dans l'idée de Robert Schuman de créer une grande idée politique sans l'asseoir sur des valeurs communes. Et pour Robert Schuman, donc tous les projets économiques et politiques qui pouvaient être mis en place en Europe devaient s'appuyer sur une vision commune qui était celle des valeurs chrétiennes de l'Europe.
Quelles sont pour lui les limites de l'Europe? Puisque quand on crée la CECA, c'est l'Europe des six. Il y a la France, l'Allemagne, enfin l'Allemagne, la République fédérale allemande, l'Italie et puis les pays du Benelux. Aujourd'hui, on a une Europe des 26, même 28. Est-ce qu'il a pensé les frontières de l'Europe? Est-ce qu'il avait aussi l'idée, éventuellement, qu'un jour il n'y aurait plus d'Union soviétique et qu'on pourrait intégrer dans le projet européen des pays d'Europe de l'Est?
Alors, je trouve que ce serait très hasardeux de dire comment Robert Schuman aurait vu l'Europe d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a fixé véritablement des frontières. En revanche, comme vous parliez de l'Union soviétique, c'est important de le souligner. Le but de l'Union européenne, c'est pas seulement de faire comment dire, une communauté économique, hein, même si pour Schuman, l'économique, donc le matériel, doit servir le spirituel. Ça, il le dit vraiment. C'est-à-dire que en améliorant les vies des ouvriers, on améliore aussi leur bien. Être au sens, mais le but de l'Union européenne, enfin de la communauté européenne, c'était aussi d'être un bloc, une opposition entre qui était l'Union soviétique avec le communisme, donc à l'Est, et à l'Ouest, le américain avec tout ce qu'il peut véhiculer de matérialisme. Et autant le communisme, autant le matérialisme sont contre aux valeurs de l'Europe, en tout cas de l'Europe telle que Schuman l'a concevée, donc une Europe. Schuman n'avait pas véritablement posé entière à l'Europe. En revanche, il disait que cette communauté européenne du charbon et de l'acier pourrait être ouverte aux pays qui le souhaiteraient. Et si on peut juste aller un petit peu plus loin, quand on lit le livre de Robert Schuman pour l'Europe, qui est le seul livre qui est écrit lui-même, qui a été édité après sa mort, il dit même que des pays tels que le Royaume-Uni ne seraient pas enclins à entrer dans la communauté européenne de par leur mentalité insulaire. Alors je trouve que quand on relit l'histoire, alors c'est toujours simple de relire l'histoire, mais on se dit que Robert Schuman avait quand même une vision très fine. En tout cas, ce qui pour lui était les frontières de l'Europe, c'était sans doute les limites d'acceptation des valeurs chrétiennes. C'est comme un élu qui disait, pour moi, les limites de l'Europe, c'est jusque là où vont les cathédrales, où sont les derniers monastères. Donc je dirais que Schuman se serait bien retrouvé là-dedans.
Alors il a été le premier président du Parlement européen qui, à l'époque, a un mode de fonctionnement différent d'aujourd'hui, parce que les membres du Parlement européen ne sont pas élus au suffrage universel, mais ils sont nommés par les États. Ce Parlement européen que Robert Schuman a dirigé pendant 2 ans, enfin, ou a présidé plutôt pendant 2 ans, comment il le concevait? Vous dites qu'il n'était pas tant attaché aux institutions qu'à l'esprit et au projet. Quelle place il accordait au Parlement européen par rapport aux États et par rapport à cette construction européenne qui était à ses débuts?
Pour Robert Schuman, même si pour lui les institutions n'étaient pas une fin en soi, il fallait des institutions, c'est une évidence, mais c'était plus un lieu d'échange et de réflexion autour du projet européen. Je pense que c'est quand même ça que Robert Schuman le percevait. Et Schuman appelait de ses voeux une élection des parlementaires européens au suffrage universel direct. On le lit dans Pour l'Europe. Assez intéressant de voir que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que les parlementaires européens sont élus au suffrage universel direct. Pour lui, le Parlement était, comme il l'a connu au Parlement français, le lieu d'échange, construction d'un projet. Et c'est dans ce sens-là que Robert Schuman, lui, a présidé le Parlement et que le Parlement a reconnu en Robert Schuman la figure d'un père, puisque il se voit décerner en 1960 le titre honorifique de père de l'Europe. Et d'ailleurs, de tous ceux que l'on appelle aujourd'hui, je dirais au sens générique, les pères de l'Europe, Schuman est bien le seul à avoir reçu ce titre officiellement et de son vivant de la part d'une institution européenne. Donc il est à juste titre le père de l'Europe.
Et effectivement, parmi les autres, il y a notamment Jean Monnet, on cite souvent Alcide de Gasperi, donc il y a d'autres Européens qui ont d'ailleurs eu leur rôle et qui ont contribué, mais quelles étaient les relations entre Robert Schuman et ses autres personnes, notamment Jean Monnet ou Alcide de Gasperi? Est-ce qu'ils avaient un projet politique commun? Est-ce qu'ils ont une coopération commune, ou est-ce qu'ils n'étaient pas forcément sur la même ligne politique?
Alors, moi, je distinguerais, parce qu'on cite souvent Jean Monnet, mais il faut pas oublier que Jean Monnet n'est pas un homme politique. Jean Monnet était un fonctionnaire. Si je prends les grands politiques de l'époque, Robert Schuman, vous citiez Alcide de Gasperi, on peut aller en Allemagne du côté de Konrad Adenauer, tous les trois étaient de sensibilité chrétienne-démocrate. Donc, je dirais qu'ils étaient unis par une même sensibilité politique et par une même foi. C'est d'ailleurs Schuman qui le dit dans un discours de Louvain, c'est la France et la charité qui nous animaient, qui nous ont poussés à nous réunir et à fonder la communauté européenne. Pour sur certains points, on ne puisse pas dire que ce fut le grand amour, notamment entre Robert Schuman et Konrad Adenauer, notamment en 1950 avec la question de la Sarre, qui était sous protectorat français. Schuman n'était pas vraiment un ami de Adenauer, c'est le projet européen qui les a soudés également. Donc il y a d'abord eu tout un groupe politique qui a, à travers l'Europe, qui se voyait dans une vision démocrate chrétienne, animée par une même foi, le désir de construire la paix, puisque c'est ça le but de ces chrétiens démocrates, et ensuite le binôme Monnet-Schuman, qui est plus un binôme, on va dire, fonctionnel. Schuman était un homme politique, donc portait le projet, la vision, et Monnet, lui, était plutôt un technicien. Et c'était Monnet, d'ailleurs, proposé à Schuman ce projet de communauté du charbon et de l'acier, Je pense que le charbon et l'acier est quand même une idée schumannienne à la base, puisque vu l'endroit où est né Robert Schumann, entre les mines de la Sarre, les mines de Lorraine, l'acier lorrain et le charbon luxembourgeois, ça semble à peu près couler de source, alors que Monet avait été moins un homme des frontières, puisque voilà, il est originaire de l'ouest de la France. Mais donc Monet était le technicien, Monet avait peut-être plus une vision économique que Schumann, du fait même de sa position en tant que fonctionnaire. Donc, et hélas, c'est peut-être le reproche que l'on peut faire, c'est que la communauté européenne a rapidement pris le tournant d'une communauté plus économique. Et hélas, voilà, Schumann avait certes parlé de CECA, communauté donc européenne du charbon et de l'acier, avec une vision économique, mais elle devait précéder un pas politique qui n'a finalement pas été fait dans les premières années de la communauté européenne. Et si bien qu'on pourrait dire que dès ses débuts, l'Union européenne, en tout cas la communauté européenne, a pris un tournant très économique, peu politique.
Vous citez les chrétiens démocrates, ça a été une force politique et intellectuelle très importante, au moins dans les années 1950-1960. Est-ce que il y a eu des liens entre Robert Schuman et Pie XII? On sait que Pie XII a été un soutien du projet européen. Il s'est exprimé, il présentait d'ailleurs la Confédération helvétique comme un modèle de ce qui pourrait être une construction européenne réussie. Est-ce que les deux hommes ont été en relation ou ont défendu des éléments communs?
Alors, ils ont été effectivement en relation. Alors, je commencerai par dire que Robert Schuman était avant tout un grand admirateur, comme tout bon catholique. Il était même plutôt ultramontain, donc il avait une admiration forte, mais pour un pape en particulier qui était Pie XII, si bien qu'au moment où Robert Schuman arrive aux responsables ministériels, il écrit à Pie XII en lui demandant une bénédiction spéciale pour le soutenir dans ses apostolats. Et on a cette réponse de Pie XII signée de sa main qui bénit Robert Schuman et qui l'invite comme un bon fils à agir chrétiennement en politique. Donc il y avait presque une affection filiale qui liait les deux. Schumann va se rendre à Rome à plusieurs reprises, notamment le jour que Schumann nomme le plus beau jour de sa vie, au moment où Pie XII a décrété le dogme de l'Immaculée, le dogme de l'Assomption. Et Schumann était présent sur la place Saint-Pierre ce jour-là, était le représentant français, et il a rencontré Pie XII en audience ce jour-là. Et on sait que Schumann a été très à l'écoute des discours du magistère, et notamment des appels incessants de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale et au sortir de la guerre pour construire la paix. Si bien que quand Pie XII appelle à construire la paix en 1947, Schumann devient ministre des Affaires étrangères français, donc le poste, je dirais, clé, le poste le plus propice pour promouvoir un idéal de paix au niveau de l'État français. Et je dirais que c'est aussi, autant c'est à l'appel du clergé local que Robert Schuman, 1919, entre en politique pour servir les intérêts de la Lorraine, mais c'est à l'appel universel et la voix de Pie XII qu'il incite à construire cette communauté européenne.
Bien, merci beaucoup, Guylain Knepper, d'avoir évoqué la vie et le travail européen de Robert Schuman. Robert Schuman qui est décédé en 1963 et qui enterré il est décédé à Cichazel en Lorraine où il s'était retiré. On retrouve là l'homme des frontières et de la Lorraine que vous avez évoqué. Et je rappelle donc à nos auditeurs la biographie que vous avez consacrée à Robert Schuman qui est parue aux éditions Salvator. Robert Schuman, la politique pour vocation, qui permet ainsi de mieux connaître le rôle et l'action politique de cet homme et son action dans la construction européenne. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.